La chronique des libraires.
Bonjour, c'est les trois drôles de dames de la librairie des Signes et il y en a une qui est particulièrement drôle ce matin parce qu'elle a une crève carabinée et qu'elle est droguée. Donc ça risque de claironner encore plus fort dans la radio ce matin.
C'est claironner Claire.
Parce qu'on appelle Claire Clairon. Certains qui l'aiment bien l'appellent Clairon et c'est pas pour rien. Voilà, bonjour. Je vous ai fait une petite sélection de saison des livres qui réchauffent pour ce mois de février que je déteste. C'est la fin de l'hiver, ça fait plouche-plouche dans la rue, il n'y a pas de soleil. On a eu de la neige qui n'a pas tenu, enfin bref, restez chez vous, bouquinez, et il y a de très bonnes choses à lire. Je vais vous parler tout d'abord d'un livre argentin, n'importe quoi, c'est un livre mexicain, bravo. Donc c'est Umami, c'est un livre mexicain donc de Laia Jufresa. Finalement c'est intéressant que je me trompe et que je dise argentin-mexicain. Bon d'abord ça montre ma méconnaissance totale de la culture sud-américaine. Mais ça montre aussi le fait que ce bouquin, on s'en fiche où il est situé, il s'adresse à tout le monde. C'est l'histoire d'une maison, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une maison qui s'appelle Umami, qui est construite sur le principe de l'umami, donc avec les différentes zones de goût qui réagissent dans la bouche, et qui est donc construite comme ça, avec différents bâtiments qui s'appellent l'acide, le sucré, etc. Et avec des personnes qui habitent cette maison. Il y a une famille moitié américaine, moitié mexicaine, avec des enfants. Il y a ce vieil homme qui est seul avec des petites, dont on apprendra par la suite qui sont ces petites. Et il se comporte avec elles comme avec ses enfants. Il y a une peintre qui invente des couleurs. C'est juste vraiment réjouissant, les couleurs qu'elle invente. Donc, par exemple, quand elle emménage dans son appartement, il y a un rayon de soleil qui pointe tous les jours dans son appartement et qui donne une couleur vraiment particulière au blanc des murs qu'elle appelle blanc lisse. C'est une couleur extrêmement apaisante et elle invente constamment des mots de couleurs qui sont tellement justes, tellement réjouissants. Voilà, donc c'est une galerie de portraits comme ça de gens qui vivent à côté les uns des autres, parfois ensemble. C'est très très beau, j'ai envie de vous lire un court extrait, c'est celui qui est en quatrième de couverture et c'est celui qui a fait que j'ai pris le livre en main en fait et j'étais bien contente de le faire. Tenter de dire qui était ma femme est aussi indispensable qu'impossible à expliquer, comme l'umami, ce goût imprégnant les papilles sans pour autant se laisser saisir, naviguant tranquille entre salé et sucré. Un titre parfait parce qu'incompréhensible. D'ailleurs, je n'ai jamais totalement compris Noelia Vargas Vargas. Voilà peut-être pourquoi je ne me suis jamais lassée d'elle. Peut-être que c'est uniquement ça, l'amour. Voilà. Très chouette truc, c'est Umami de Laia Jufresa en folio. Donc en plus, ça coûte pas cher et c'est bon. Après, je vais vous parler de deux bouquins qui sont, pour le coup, se passent beaucoup plus sous la neige. Je ne sais pas par lequel commencer parce que j'aime beaucoup les deux. Je vais commencer par Imaka parce que là aussi, c'est une galerie de portraits complètement réjouissante. C'est l'histoire de Martin, un professeur danois qui décide de demander un poste dans le Groenland. Le Groenland qui est une partie du Danemark qu'on peut qualifier de colonisé culturellement. En tout cas, le Danemark, je l'ai découvert dans le livre, le Danemark s'attache à envoyer des professeurs dans les écoles qui ne parlent que danois, qui ne forment que à la culture danoise et qui n'incluent pas du tout la culture du Groenland dans le cursus. Donc ce Martin va se faire envoyer au Groenland. Il a, lui, envie d'espace, de grands espaces, de froid, d'aventure. Et il va donc se faire envoyer au Groenland par un professeur en charge de ces régions plus colon que colon. Ce Martin va évidemment tomber complètement en amour avec la région, ses personnes. Et puis, il y a aussi en parallèle l'histoire de Yakunguak, je ne sais pas si je prononce correctement, qui est un adolescent qui, lui, a été envoyé sur le continent, si j'ose dire, pour faire une analogie avec la France, qui a été envoyé donc, au Danemark pour apprendre le danois dans un pensionnat au Danemark, ça fait un peu penser aux enfants indiens qui ont été envoyés dans des pensionnats aux États-Unis pendant de longues années. Donc il y a ce jeune homme qui revient lui chez lui et qui trouve pas du tout sa place quoi. Quand il est parti, il mangeait comme tout le monde au Groenland ce que son père chassait, donc de la viande bouillie, les légumes qui poussaient là. Et il va au Danemark, il apprend à manger de la nourriture préparée, tout ce qu'on met au micro-ondes, etc. Quand il revient chez lui, il trouve à vomir tout ce que sa famille mange. Il trouve vraiment pas sa place. Voilà, donc il y a ces deux parcours parallèles. L'un qui trouve sa place, l'autre qui sent rejeté de l'endroit même d'où il vient. Et puis, il y a tout un tas de personnes, de personnages hauts en couleur, attachants, drôles, réalistes. Voilà, on découvre un monde complet. Enfin, moi, j'ai lu très peu d'auteurs danois. Je crois c'est peut-être même le premier, allez. J'ai découvert un espace. Il y a vraiment de belles descriptions. On voit l'espace dans lequel évoluent les personnages. Et puis, c'est farce, c'est drôle, c'est émouvant, c'est sexy quand ça arrive. Voilà, c'est vraiment un super roman à lire en hiver, au chaud, sous la couette. Ça s'appelle Imaka, l'ai-je dit ? J'ai raconté tout ça sans dire le titre, c'est possible.
Si, tu l'as dit.
D'accord. Ça s'appelle donc Imaka, c'est Flemming Jensen et c'est paru chez Gaïa. Là aussi, c'est un petit format poche à 12€. C'est tout bon, ça fait chaud. Et on enchaîne sur mon préféré. Bon. Il faut que j'avoue quelque chose, je suis hyper sentimentale. J'adore qu'on me raconte une belle histoire d'amour qui me fait pleurer. Voilà. Et alors, le livre qui m'a émue et qui m'a tiré de chaudes larmes, c'est « Le dernier rêve de la raison » de Dimitri Lipskerov. C'est paru chez Agulo. Là, pour le coup, c'est paru en grand format. Ça coûte 22,50€. C'est un bijou, c'est de bouquin. C'est difficile d'en parler parce que justement, il m'a complètement émue. C'est l'histoire de Ilya, qui est un tatar. Il vend du poisson dans une grande surface. On est à l'époque soviétique. Il est un peu limité. On peut dire même carrément débile. Il parle très peu. Il a le visage fixe, un peu déformé, un peu défoncé, on pourrait dire. Il vit complètement seul et il vend du poisson dans une grande surface. Et un jour, par erreur, il reçoit un silure dans la cargaison de poisson. Il faut savoir qu'on est en Union soviétique, on vend beaucoup le poisson dans des bacs vivants, quoi. On vend des carpes vivantes dans des grands bacs présents dans les supermarchés, donc c'est son poste. Et un jour, parmi les carpes, il reçoit un silure dont il tombe éperdument amoureux. Mais d'un amour pur, quoi, parce que ce type est incapable d'autre chose que de pureté. Et une des raisons pour lesquelles il aime ce silure, c'est que le silure est un poisson végétarien et que donc il fait de mal à personne. Et Ilya tombe complètement en amour avec ce poisson. Il le nourrit, il lui donne son doigt à sucer. Enfin bref, c'est un peu de chaleur dans la vie de ce gars qui a l'air particulièrement aride. Et puis, un jour, ses collègues, jaloux du privilège odieux qui lui a été accordé quand il a pu garder son silure, tuent son silure. Et Ilya, fou de douleur, rentre chez lui, où il se fait attaquer. Il habite dans des bars HLM. Là aussi, on voit très bien l'environnement. Et il y a des corbeaux qui habitent avec les humains dans ces bars HLM. Des corbeaux qui sont extrêmement présents, bruyants, agressifs parfois, et qui effectivement ne manquent pas de tous foncer sur Ilya, qui est perdu de douleur, se retrouve dans un concours de circonstances chez lui, attaqué par les corbeaux et ne pouvant faire autre chose que de plonger dans le lac qui se trouve à proximité. Il plonge dans le lac et il devient un poisson. Voilà. il va se passer plein de trucs vraiment merveilleux. C'est un conte complètement sans complexe. Il va se transformer en poisson. On va découvrir pourquoi il est si limité, pourquoi il a tellement peu de mots à sa disposition. On va s'émouvoir avec lui parce qu'il va retrouver son état originel. Donc on va le découvrir avant qu'il ait été détruit et transformé, si j'ose dire, en il y a le tatar débile. Voilà, c'est vraiment beau. C'est un conte pour adultes. On voit là aussi, enfin moi, je connais un peu les pays de l'Est et avant aussi la chute du mur et le marché sur lequel travaille Ilia. Enfin, on voit vraiment ce monde-là. Les couleurs sont là, les images sont là. C'est vraiment un truc à découvrir. Et donc, on est dans une atmosphère très réaliste et c'est un conte. C'est vraiment très réussi, très beau. C'est Le dernier rêve de la raison de Dimitri Lipskerov et c'est chez Agulo. Voilà.
C'est à moi ? Non, trop tard. Donc c'est clair pour la BD. Alors là, pour une fois, je vais vous parler. Moi, le sujet, ça va être plutôt l'horreur. Après Camille, c'est difficile.
On aurait peut-être dû faire l'inverse, en fait.
Oui, parce que là, on va vraiment aller dans le gore, horreur, vraiment. Donc je vais vous parler d'un manga, Monk Epic. Désolée si, pour les auteurs, je ne le dis pas bien. Donc Koji Shinazaka et Akihiro Kumeta. C'est chez Komiku, c'est le tome 1, donc il va y avoir un tome 2 à mon avis. Alors Monk Epic, ça parle de quoi? Alors en fait, ce sont des employés d'une entreprise, pour resserrer les liens en fait entre eux, entre les employés, ils vont aller dans une forêt, donc c'est une sorte de grande randonnée, donc tout va bien, la forêt, les petits oiseaux, les employés, tout le monde s'aime, sauf que ça va se transformer. Tout d'un coup, ils vont voir apparaître une sorte de bête. On ne sait pas trop, en fait, au début. On ne sait pas ce que c'est, un humain, c'est pas un humain. Et là, ça va partir en cacahuète. Ça va être plutôt une chasse à l'homme. Donc, je dirais que c'est un peu les 10 petits nègres qui rencontrent les Earthface. C'est qui, les Earthface? Donc, bah, c'est le méchant dans Massacre à la tronçonneuse. On se moque de moi?
Non, on se moque de ton accent, parce que moi, j'ai entendu Laser Face, à savoir L-E-S, plus loin, Zeur, Z-E-U-R, Face, enfin bref, quelque chose d'autre, quoi.
Ok.
Laser Face, right.
Thank you.
Cheers.
Donc voilà, c'est génial, ça part tout doucement, et puis ben, ça part très vite en cacahuète. Bref, c'est un manga, j'ai adoré. Arrêtez de vous moquer, hein. J'ai adoré du pur horreur, du pur massacre, du gore, du sang, tout ce qu'on aime. Bon, c'est quand même pour un public averti, hein. Donc, je dirais que c'est à partir de 15-16 ans. Non, pas 2 ans encore. Non, mais après, le problème des mangas, comme je le dis à beaucoup de clients, c'est que les enfants, souvent, avant, regardent les animés. Donc, les parents viennent, me demandent les mangas. Moi, je fais mon métier. Je leur dis, je suis désolée, ça, c'est pas de leur âge. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, ça, non, quand même. Je dirais, bon, allez, à partir de 16 ans, parce que quand même, il y a du sang, il y a de l'hémoglobine. Bref, tout ce que j'aime, quoi. C'est Monk Epic. Le tome 1 chez Komiku. Ah non, je continue dans le gore, Charline, désolée, parce que toi, c'est du gentil.
Oh bah d'accord, je passe à...
Non, mais parce qu'après, là, ça passera pas non plus. Donc, on a reçu La Petite Souriante de Zidrou et Springer chez Dupuis. Pareil, là, on va partir dans du bon gore. Donc, c'est l'histoire de Joseph, éleveur d'autruches, qui est marié avec sa femme depuis... il compte même plus, le pauvre. Donc, elle n'est pas belle, elle est méchante, elle est cruelle. Bref, on s'en doute, il n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser de la brave dame. Donc, un soir, qu'est-ce qu'il fait? Il la tue. Là aussi, c'est assez gore, hein, la manière dont il la tue. Et il la jette dans le puits. Sauf que ce brave monsieur rentre chez lui, content de son forfait. Et qui l'accueille? Sa femme. Et là, c'est le choc. Mais que se passe-t-il? Qui est dans le puits? Évidemment, il a une maîtresse qui dit « Mais t'es vraiment nul, t'es bon à rien, fais quelque chose. » Donc ils vont essayer désespérément, on va dire entre guillemets...
Faut préciser aussi que la maîtresse, c'est la fille de la dame en question.
Mais fallait pas le dire, c'est
fallait
ça.
Fallait pas le dire.
Bah non, parce que justement... C'est...
Bah pourquoi?
Je sais pas.
Bah si, tu l'apprends dès la troisième page du truc. Bon, pardon.
En tout cas, je remercie Camille parce qu'elle l'a lu. Donc ça veut dire que t'as aimé.
Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment noir, quoi. C'est du très, très, très bon noir crime avec une espèce de twist sur science-fiction, puisque cette bonne femme réapparaît en zombie tout au long du truc et comment ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est vraiment bien, ouais.
Et ça change, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une BD là-dessus.
Ouais,
franchement,
c'est un bon scénar. Les dessins sont vraiment bien. Ouais. C'est hyper violent. C'est noir à souhait. C'est bien.
Ouais. Et on s'attend pas à ces Zidrou. Là, il nous fait un scénario, mais il est trop fort, ce Zidrou. Franchement, je suis en admiration totale à chaque fois qu'il sort quelque chose, parce que il va passer d'une BD où c'est gentil, c'est beau, une histoire sociale, et là, on arrive sur une BD, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est du vrai gore, comme on aime. D'ailleurs, je vais vous lire ce qu'ils ont marqué derrière. Pour sûr, cette histoire, c'est pas vraiment La Petite Maison dans la Prairie. Voilà, tout est dit, hein, on est d'accord. Donc La Petite Souriante, Zidrou et Springer chez Dupuis. Et elle est... La BD, elle est magnifique. C'est un format un peu carné, en fait. On a l'impression que c'est...
Oui, il y a une belle texture sur la couverture.
Et on a l'impression, en fait, que...
Il y a des autruches.
Et il y a des autruches. Très important pour Charline, rayon jeunesse, je tiens à le rappeler. À toi, Chacha.
Excusez-moi, il faut que... Il y a un truc qui me vient à l'esprit et c'est important, j'aimerais en parler. Tout à l'heure, j'ai donné le prix des livres au moment où je parlais d'eux. Je l'ai donné parce que le prix du livre, il est le même partout en France et qu'en fait... je constate tous les jours que peu de gens le savent. Donc, les livres, ils coûtent pareil partout. Ils coûtent pareil chez les libraires indépendants, chez les grandes enseignes, sur Internet. Et voilà. Donc, c'est vous qui faites la différence où vous achetez vos livres, puisqu'ils coûtent le même prix partout. Voilà, excusez-moi pour cet intermède. À toi, Charlie.
Merci, Camille. Donc, à moi. Donc, je vais parler un peu, parce que depuis tout à l'heure, on n'entend que mon rire. Hein. Me moquer de Claire, j'aime beaucoup ça. Je vais continuer dans ma phase de la dernière fois, légèrement féministe et révoltée. Je vais commencer par un bouquin qui est sorti il y a un an déjà, mais il faut en parler parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Ça s'appelle Georges, sans S. C'est par Alex Gino, à l'École des loisirs, en grand format. Georges, c'est en fait l'histoire d'un petit garçon qui a 10-11 ans, qui vit avec sa maman et son grand frère, américain moyen, sans histoire, voilà. Sauf que ce petit garçon qui s'appelle Georges, lui, en secret, il aime lire la presse féminine, il aime voler les robes et les chaussures de sa maman pour se déguiser. Il s'appelle lui-même tout seul dans sa tête, il préfère s'appeler Mélissa que Georges. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un petit garçon qui en fait est persuadé d'être une fille. Et voilà. Et en fait, voilà, c'est un livre qui va parler du thème du transgenre, et c'est un livre qui s'adresse aux jeunes, en fait, aux jeunes à partir de 9-10 ans, et je trouve ça génial qu'ils aient sorti un bouquin qui parle de ça pour cette tranche d'âge-là, parce que je pense que c'est le seul qui existe. L'auteur Alex Gino est lui-même transgenre, il se fait d'ailleurs appeler « il », « il » au pluriel. Quand il parle de lui, il s'appelle il au pluriel. Parce qu'il veut pas s'appeler il ou elle, il veut pas faire la différence entre le masculin et le féminin, donc il se fait appeler il au pluriel. Enfin, they, du coup, en anglais. Enfin, bref. Et du coup, ce petit garçon, donc c'est en fait cette petite fille, a une meilleure amie qui s'appelle Kelly. Et il va réussir tout doucement à se confier à elle. Et cette Kelly va être complètement compréhensive. Après, elle a une âme d'enfant complètement innocente et naïve. Et du coup, bah oui, si tu veux être une fille, bah oui, t'es une fille. Ok, je t'appelle Mélissa. Et puis, on fait des trucs de filles ensemble. Et en fait, un jour, ça... Leur maîtresse va vouloir monter une pièce de théâtre pour le spectacle de fin d'année. La pièce en elle-même, la pièce s'appelle c'est Le Petit Monde de Charlotte, la pièce. Et en fait, Georges rêve de jouer le personnage de Charlotte. Mais du coup, ça va être un petit peu compliqué. Sa maîtresse, même si c'est une dame très compréhensive, va lui dire « Bah non, mon petit Georges, tu es un garçon, tu ne peux pas jouer le rôle d'une fille. » Il va quand même passer les castings et en fait, il est tellement bon que sa maîtresse va quand même le prendre en doublure. Et le soir du spectacle, la petite fille qui devait jouer Charlotte ne peut pas jouer, je ne sais plus pour quelle raison, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Et du coup, Georges va devoir jouer le rôle de Charlotte et va... Il va tous les éblouir et il va du coup un peu se dévoiler comme ça. Et enfin bref, c'est vraiment une super belle histoire. C'est raconté avec des mots simples. C'est accessible, comme je vous le disais, à partir de 9-10 ans. Et c'est génial, il faut absolument le lire. En plus, il est beau, il est tout blanc et c'est écrit Georges avec plein de couleurs.
Comme le personnage.
Voilà. Donc ça s'appelle Georges, c'est par Alex Ginot et c'est à l'École des loisirs. Je continue, je garde le plus drôle pour la fin, hein. Là on va continuer dans la phase un peu moins drôle, quoique très bien. Ça c'est un livre qui vient vraiment de paraître, je l'ai reçu, je l'ai mis en place hier. Ça s'appelle « Pourquoi les filles ont mal au ventre ?» C'est par Lucille de Pesloin et Geneviève Darling, aux éditions de Lysatis. Et on se demande un petit peu de... Enfin, on se dit, le titre, pourquoi les filles ont mal au ventre, on se dit, ça va parler des règles ou des menstruations pour les jeunes filles. Eh ben, pas du tout. En fait, c'est un espèce de manifeste féministe qui est à lire pour les petites filles aussi bien que pour les adultes, avec des illustrations très graphiques, toutes violettes. Et en fait, je vous lis une page. Donc, les filles ont mal au ventre, qu'on leur demande d'être des princesses dès leur plus jeune âge. Les filles ont mal au ventre parce que le sexisme affecte tout le monde, tous les jours, de façon évidente, subtile, simple ou complexe. Les filles ont mal au ventre parce que le corps féminin est toujours un enjeu, qu'il soit enfoui sous des tonnes de tissus ou dévoilé. Enfin voilà, celle-là je l'aime bien aussi. Les filles ont mal au ventre de devoir porter des soutiens-gorge pigeonnants pour être séduisantes, alors qu'elles doivent se cacher pour allaiter leur enfant. Enfin voilà, c'est toutes les réalités de notre vie de femme et de jeune fille et de vieille femme aussi. Alors Claire est en train de se foutre de ma gueule.
Vieille femme, moi j'aurais employé autre chose.
Non mais je veux dire même, qu'on ait 3 ans ou 99 ans, voilà. Et voilà, et je pense qu'on pourrait en rajouter plein, même s'il y a déjà quand même pas mal de thèmes abordés. Et c'est beau. C'est un album illustré, hein, comme je vous le dis, adulte, enfant, on s'en fiche. Ça s'appelle « Pourquoi les filles ont mal au ventre » par Lucille de Pesloin, illustré par Geneviève Darling, aux éditions de Lysatis. À mettre entre toutes les mains. Et on termine par un truc trop bien.
Ah, j'adore.
Là, je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'appelle « Billy Blaireau, son enlèvement presque réussi, mais finalement raté ». C'est par A.L. Kennedy, illustré par Gemma Corel, et c'est paru chez Casterman. Donc ça, c'est un petit roman illustré qu'on peut lire, on peut le lire déjà à des enfants qui ne savent pas encore lire, je pense, à partir de 5 ans. Et on peut, les enfants qui... Toi, tu vas le prendre pour ton fils, je crois.
Ah oui, c'est clair. C'est clair. Il a 9 ans.
Voilà.
Là, je m'en souviens.
À partir de 8 ans, il n'y a pas de souci, on peut le lire tout seul. C'est une histoire complètement loufoque, complètement décalée. C'est l'histoire d'un petit blaireau qui s'appelle Billy. Son nom de famille, c'est Blaireau. Hein, donc il s'appelle Billy Blaireau, bien entendu. Il a sa petite vie tranquille dans sa petite tanière. Il a sa housse de couette. Dessus, c'est un blaireau célèbre. Enfin, voilà, il a ses petits... Bon, bref, c'est drôle. Il a son petit confort et tout. Sauf qu'un jour, il se balade dans la forêt et il va se faire enlever. Il va se faire enlever dans un espèce de sac et en fait il va arriver dans une ferme où tous les gens sont méchants, le papa, la maman, les deux sœurs du papa qui en fait c'est elles qui l'ont enlevé dans la forêt, les enfants et en fait les deux sœurs en question c'est des vieilles harpies moches qui puent et qui sont méchantes et cruelles et elles organisent des combats. Entre des animaux qu'elles enlèvent dans la forêt et leurs chiens qui sont complètement cruels et qui bouffent tout ce qu'ils trouvent. Et donc voilà, c'est le destin de Billy Blaireau, c'est de finir en gros en pâté pour chien pendant le combat. Et s'il s'en sort, finalement, et ben les je sais plus comment ils s'appellent ces gens, ils ont un nom... Ah voilà, c'est les McGloon, parce que je crois que ça se passe en Écosse. Et les McGloon, eh bien, ils aiment bien manger de la Tourteau Blaireau. Enfin bref. Et donc c'est voilà, c'est l'histoire de Billy Blaireau. Comment va-t-il s'en sortir ou pas? C'est l'histoire de quatre lamas aussi qui se sont fait avoir, qui sont arrivés du Pérou en pensant arriver dans une ferme de rêve et qui en fait se retrouvent chez les McGloon qui aiment aussi beaucoup manger de la tourte au lama. Et eux, comment vont-ils s'en sortir? Comment leur destin de lama va être lié au destin de Billy Blaireau? Et aussi, c'est l'histoire de Oncle Sean, qui est un grand monsieur tout gentil, un peu béné, mais qui aime bien faire le bonheur autour de lui et qui va venir sauver tout ce petit monde. Et c'est drôle, c'est ponctué de plein de dessins qui super humoristiques. Là, par exemple, au hasard, j'ouvre une page, je tombe juste sur des oiseaux avec des lunettes de soleil qui mangent des glaces. Voilà, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le texte, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Et voilà, il faut le lire, même les adultes, parce que c'est vraiment drôle. Moi, je me suis bien fendue la gueule. Donc, je vous rappelle, ça s'appelle Billy Blaireau, son enlèvement presque réussi, mais finalement raté. C'est par A.L. Kennedy et illustré par Gemma Correll, et c'est chez Casterman. Et donc, je termine sur cette petite note joyeuse, et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt, merci beaucoup.
Retrouvez ces conseils de lecture et bien d'autres à la librairie des signes à Compiègne.